compte est bon sur RFI, 5h30 à Paris et Kinshasa, 6h30 à Kiev. Et c'est l'heure de retrouver l'ami Nemo en piste. Bonjour Nemo.
Bonjour Martin Guez, bonjour à tous.
À la une de votre journal, l'ancien président congolais Joseph Kabila sort de son silence.
6 ans après son départ du pouvoir, dans une tribune publiée dans la presse sud-africaine, il accuse l'actuel chef de l'État Félix Tshisekedi d'être responsable de la crise sécuritaire marquée par les avancées du groupe armé M23 soutenu par le Rwanda dans l'est de la RDC. Joseph Kabila qui estime que la résolution du conflit ne passera pas uniquement par les armes. Pendant ce temps sur le terrain, pas de combat à souligner ce week-end, mais les rebelles qui continuent de s'installer en redéployant notamment des policiers qui s'étaient rendus lors de la chute de Bukavu. RFI, vous l'avez entendu, est en Ukraine ce lundi à l'occasion des 3 ans du début de la guerre. Témoignage dans ce journal d'une jeune étudiante ivoirienne qui raconte son périple au départ de Kiev, au début du conflit, jusqu'en France où elle a rejoint de la famille. Et puis l'agence américaine Moody's qui revoit la note du Sénégal à la baisse après les récentes révélations de la Cour des comptes, juste après ce journal, le journal des sports. Relatif retour au calme ce week-end sur les différents fronts ouverts dans l'est de la République démocratique du Congo. Aucun combat signalé dans le territoire de Lubero au nord Kivu, ni au sud Kivu. Le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda avançait nettement la semaine dernière en s'emparant de la capitale provinciale Bukavu. Des rebelles qualifiés de pantins ce week-end par le président Félix Tshisekedi qui a réitéré son refus de dialoguer directement avec le M23. Son prédécesseur, lui, Joseph Kabila est sorti de 6 ans de silence. Dans une tribune publiée dans le Sunday Times, un journal sud-africain, l'ancien chef de l'État accuse l'actuel pouvoir d'avoir plongé le pays dans une crise sécuritaire et estime de son côté qu'un tel conflit ne peut être uniquement réglé militairement. Les précisions à Kinshasa de Pascal Moulégua.
Joseph Kabila s'est adressé aux dirigeants sud-africains et à la SADC, soulignant que la solution à la crise en RDC ne réside pas uniquement dans l'envoi des troupes et d'équipements militaires. Il insistait sur le fait que les griefs du peuple congolais contre le pouvoir en place doivent être pris en compte. La RDC est selon lui au bord de l'implosion avec une situation sécuritaire délétère. Kabila accuse son successeur Félix Tshisekedi d'avoir instauré un régime qu'il qualifie de tyrannique, caractérisé, et je cite, par les intimidations, arrestations arbitraires, exécutions sommaires, extrajudiciaires, la répression de l'opposition, la censure des médias ainsi que l'exil forcé des nombreux opposants, des journalistes et des leaders d'opinion y compris des chefs religieux. Il affirme que d'innombrables violations de la constitution et des droits de l'homme ne cesseront pas même après l'aboutissement des négociations entre la RDC et le Rwanda ou la défaite militaire du M23. Les relations entre les chefs de l'État et son successeur sont tendues. Le 13 février à Munich en Allemagne, Félix Tshisekedi a une fois de plus accusé Joseph Kabila d'être derrière la rébellion du M23, ce que les proches de ces derniers ont toujours nié. Pascal Moulégua, Kinshasa, RFI.
Je vous le disais il y a un instant, il y a un peu plus d'une semaine, le groupe armé M23 prenait le contrôle de Bukavu, la grande ville du sud Kivu. Et ainsi, des milliers de policiers, militaires ou combattants armés proches des FARDC se sont rendus au groupe armé. 1 millier d'entre eux ont été escortés de la capitale du sud Kivu vers celle du nord, Goma, hier par bateau avant d'embarquer vers le territoire de Rutshuru. Le récit d'Eva Massi.
Ils sont arrivés au port de Goma en tenue de la police nationale congolaise et désarmés. Escortés par les rebelles de l'AFC M23, ils ont été conduits vers le stade de l'Unité, le plus grand stade de football de la ville, pour ce que le M23 a appelé une causerie morale. Parmi ces nouvelles recrues figurent quelques femmes venues parfois avec leur bébé. Selon un responsable du M23, ces policiers vont maintenant recevoir une formation avant de rejoindre leurs nouveaux collègues de l'AFC M23. Il y a également des militaires et des civils, a précisé ce responsable. Nous sommes de la police nationale, formée pour sécuriser la population. Nous venons ici pour ajouter un plus, puis nous rentrerons à Bukavu, a déclaré un de ces policiers qui s'est présenté comme un de leurs porte-parole. Ces enrôlements interviennent alors que des critiques se font de plus en plus pressantes en raison de l'insécurité grandissante, notamment dans les quartiers nord de la ville. Des dizaines de cambriolages la nuit ont été signalés. Samedi soir encore, 2 jeunes au moins ont été tués par des hommes armés.
Eva Massi. J'ajoute que les chefs d'état-major de l'EAC, la communauté d'Afrique de l'Est, ont conclu leur discussion sur la situation sécuritaire en RDC vendredi. Leurs conclusions doivent être examinées ce lundi lors d'une nouvelle réunion commune entre EAC et SADC, prévue à Dar es Salaam en Tanzanie. Une rencontre qui marque donc la première étape de la mise en œuvre des décisions prises lors du sommet conjoint du 8 février dernier. Autre conflit en cours, celui au Soudan, où l'armée du général Al-Burhan et les paramilitaires du général Emeti s'affrontent depuis bientôt 2 ans maintenant. Dans la nuit de samedi à dimanche, ces paramilitaires des forces de soutien rapide ont signé à Nairobi au Kenya une charte fondatrice pour un gouvernement parallèle à celui de Port-Soudan. 24 organisations issues de la société civile, mais aussi de partis politiques et des groupes armés ont signé en faveur de la création d'un gouvernement de paix et d'unité dans les zones contrôlées par les FSR. Réaction dans la foulée du chef de la diplomatie soudanaise Ali Youssef. Son pays, je le cite, n'acceptera pas la reconnaissance d'un gouvernement parallèle et n'acceptera pas non plus qu'un autre pays le fasse, a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse tenue au Caire avec son homologue égyptien. Sur le terrain, enfin, l'armée a affirmé ce dimanche également avoir brisé le siège autour d'une ville clé du sud du pays, El Obeid, encerclée par les forces de soutien rapide depuis le début de la guerre en avril 2023. Près de 2 ans de guerre au Soudan et ce lundi, triste anniversaire que celui des 3 ans de guerre en Ukraine. RFI est à Kiev ce matin et à cette occasion, on vous propose tout au long de la matinée, de la journée, différents témoignages de personnes directement touchées par le conflit. Écoutez celui de Tatiana, son nom a été modifié pour raison de sécurité. Cette jeune Ivoirienne arrivée en Ukraine 1 an avant l'éclatement de la guerre. Elle étudiait à Kiev, la capitale, mais a dû la quitter en urgence, comme des centaines de milliers d'autres, quand les bombardements ont commencé. Elle raconte son parcours de la gare de Kiev jusqu'à la France.
Ça se sentait à Kiev la guerre parce que tout le monde cherchait à se mettre à l'abri. On voyait les chars, on voyait les avions de guerre passer. Mais j'ai plus entendu les bombardements lorsque j'étais dans le train pour Lviv. Il y a le train qui s'arrêtait vu qu'il y avait des bombardements dans les villes d'à côté. Au métro de Kiev, ça ne se passait pas bien parce que c'était les Ukrainiens d'abord. Parce qu'il fallait comprendre la langue, tout et tout. Il fallait vraiment se débattre. On était dessus parce qu'on se disait, on est tous humains. Les bombes, elles ne trient pas, en fait. Et on a lutté, on est rentré de force dans le train. Et voilà, après, je suis retrouvée en Pologne. De la Pologne, je suis venue en France, vu que j'avais de la famille en France. On a été confrontés au problème du fait qu'il n'y avait pas de guerre dans nos pays. On a traversé des galères, arrivé en France, on ne savait pas où mettre la tête. Franchement, on se dit que cette guerre, elle n'avait pas nécessité d'être parce que c'est des pètes en vie humaine qui n'ont rien demandé. Voilà, que si ça pouvait cesser, c'était bien.
Témoignage de cette jeune étudiante ivoirienne recueillie par Christina Okello. Je vous rappelle le dispositif ce matin sur nos antennes à l'occasion de ces 3 ans de guerre en Ukraine. Édition spéciale de 6h10 à 7h, temps universel, avec Andréane Mellard et ses invités en direct de Kiev. Nous sommes au Sénégal également ce matin, ou quelques jours désormais après des révélations de la Cour des comptes sur la gestion des finances publiques sous le mandat de l'ancien régime de Macky Sall. Eh bien, l'agence américaine Moody's a dégradé en fin de semaine dernière la note du pays de B1 à B3, qui plus est avec des perspectives négatives, ce qui va renchérir les emprunts du pays déjà dans une situation budgétaire difficile. Les précisions de Claire Fage.
L'agence Moody's l'explique sans détour dans son communiqué. La dégradation du Sénégal est due aux nouvelles données de la Cour des comptes, révélant une situation budgétaire beaucoup plus fragile. Le 13 février, la juridiction financière sénégalaise avait révélé qu'en 2023, la dette publique du pays atteignait près de 100% du produit intérieur brut et non 65,6%, que le déficit budgétaire lui pesait 12,3% du PIB, 2,5 fois plus que ce que la précédente administration avait annoncé, et qu'une dette bancaire importante avait été contractée hors circuit budgétaire. Le premier ministre Ousmane Sonko a depuis annoncé de possibles poursuites contre les auteurs de ce qu'il a qualifié de manquement grave. En attendant, la note du pays est dégradée de 2 crans à un niveau très spéculatif pour la première fois depuis près de 20 ans. Cela signifie que le Sénégal, désormais classé dans les investissements à risque, sera soumis à des taux d'intérêt beaucoup plus élevés pour emprunter dans un contexte de ressources publiques déjà réduites et de baisse de l'aide étrangère.
Claire Fage du service économie de Radio France Internationale. L'actualité du continent en bref est le président bissau-guinéen Oumaro Sissoko Embalo qui a annoncé ce dimanche la tenue des élections présidentielles et législatives le 30 novembre prochain. La Cour suprême avait pourtant fixé cette échéance au 4 septembre. L'opposition de son côté estime que le chef de l'État doit quitter le pouvoir dès le 27 février. Et puis retour sur une attaque djihadiste au Mali pour refermer ce journal. C'était le 7 février dernier. À Kobe, ce jour-là, un convoi de l'armée malienne et de ses alliés du groupe russe Wagner, qui escortait des véhicules civils partis de Gao en direction d'Ansongo dans le nord du pays, a été pris pour cible par des membres de l'EIS, l'État islamique au Sahel. En un peu moins de 20 jours, Human Rights Watch a mené son enquête, interrogeant plusieurs témoins, y compris des personnes qui faisaient partie du convoi. L'ONG revoit un bilan à la hausse avec 34 civils tués et donne surtout des détails sur le contexte de l'attaque. David Baché.
Commerçants maliens de Gao, orpailleurs nigériens, plus d'une centaine de civils répartis dans 19 véhicules faisaient partie du voyage. 34 d'entre eux ont péri, selon Human Rights Watch. 34 autres ont été blessés. L'armée avait communiqué un bilan de 25 civils tués et 13 blessés. Ni l'ONG ni l'armée ne donnent de chiffres pour les victimes militaires. La route reliant Gao à Ansongo, comme d'autres dans la zone, est ciblée par l'État islamique au Sahel depuis plusieurs années. Hilaria Allegrosi, chercheuse à Human Rights Watch.
Des commerçants qui ont l'habitude de prendre cette route nous ont dit qu'il n'y avait pas seulement des risques d'attaque, des braquages, mais aussi les groupes djihadistes liés à l'État islamique imposaient des taxes aux personnes qui traversaient cette zone.
Les escortes militaires visent à protéger les civils, mais cette pratique imposée par l'armée depuis la fin de l'année dernière, selon l'ONG, est largement critiquée par les principaux intéressés.
Les habitants de la zone, surtout les commerçants, nous ont confié qu'ils ne se sentaient pas à l'aise à être accompagnés par des militaires. Les escortes armées peuvent être elles-mêmes une cible et